Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du 3 mai, May the 4th et Cinco de Mayo. Vous écoutez le deuxième service du réchaud. Bon début de bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFA 88.3 et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Comment vous retrouver cette semaine pour une fin de semaine bien remplie, comme la semaine l'a été? Que la force soit avec vous, may the fort be with you, ce samedi, journée de Star Wars, qui honore la phrase célèbre avec le 4 mai et le Cinco de Mayo du côté espagnol. De la force, non? Et je dis semaine remplie qui a débuté le week-end dernier avec le décès de Jean-Pierre Ferland. C'est sûr que c'est moins du contenu local. Ben, c'est du contenu local, oui, c'est québécois, mais c'est un peu moins le contenu universitaire qu'on joue à l'habitude. Mais plusieurs artistes qui font carrière aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Jean-Pierre Ferland, du moins... dans les nombreux et nombreux témoignages qu'on a entendus tout au long de la fin de semaine dernière. C'est que Jean-Pierre Ferland qui chante dans notre langue québécoise, qui permet aux artistes d'ici de chanter en français québécois, de lâcher la chanson française, le petit accent, pour bien paraître. Des images d'un reportage de Jean-Pierre Ferland en France qui, se donne le petit accent pour qu'on le comprenne bien, mais que les Français continuaient quand même de dire « Ah, ben c'est comique votre accent, c'est drôle! » Mais il est dans les premiers, c'est sûr. Et puis après ça, il y a le Stitch Show, il y en a plein d'autres. Il y a Charlebois, Forestier. C'est sûr que Jean-Pierre, il est dans les premiers. Justement, le délaisser un petit peu plus les influences françaises pour faire de la musique française et aller vers des sons un peu plus anglophones, faire un peu plus de rock. L'album Jaune. Avoir des sonorités un peu plus américaines. On est en Amérique, faut le dire. Quand même que les Américains s'approprient le continent au complet, on est là, nous autres aussi. Donc, c'est sûr qu'on a des influences américaines dans notre musique. On est à côté. Ça, Jean-Pierre, c'est pas privé de ça. Autant compositeur-interprète est décédé à l'âge de 89 ans, il allait avoir 90 en juin. Évidemment que les célébrations du 24 juin allaient être pour souligner la carrière de Jean-Pierre, les 90 ans de Jean-Pierre, mais là, ce sera pour souligner la carrière de Jean-Pierre aussi, mais dans d'autres circonstances, bien sûr. ...450 chansons sur une trentaine d'albums. Jean-Pierre Ferland commence sa carrière en tant que coursier chez les annonceurs de Radio-Canada dans les années 50. Le Fuzzer Schedule, comme l'appelaient ses collègues, qui écrit des poèmes et qui chante. Le gars qui fait les horaires, fait des poèmes. C'est drôle. La Muselle et Pierre Paquette, Pierre Nadeau, Richard Garneau, ainsi que les Jean-Paul Nollet, Henri Bergeron, qui lui offre d'enregistrer un disque. Dans le cas d'Henri Bergeron, des beaux dimanches. Jean-Pierre Nollet, qui l'a aidé à acheter sa première guitare. On lui suggère aussi fortement de suivre des cours de chant. C'est drôle, ça aussi. Ça l'empêchera pas de remporter un premier concours à l'émission Chansons sur mesure avec Les Immortels en 1961. En 62, sa pièce Feuille de Gui remporte le Grand Prix du Gala international de la chanson de Bruxelles. Voilà le moment où il ira du côté de l'Europe, mais qui n'aimera pas spécialement ça. Clémence Desrochers, ben oui, mon Dieu, qui est Claude Léveillé, de qui il s'était entouré dans les années 60, évidemment. Ferland avec ses collègues, voilà. Hervé Brousseau, Raymond Lévesque, Jacques Blanchet, Claude Léveillé, Clémence Desrochers forment les Bozos. Rue Crescent à Montréal, il s'aménage une petite salle qu'il nomme à bon escient chez Bozo, en hommage à Félix, bien sûr. Félix Leclerc. Et ça, c'était dans son entrevue à Tout le monde en parle. Tout le monde en parle de Jean-Pierre Ferland, qui a été in extremis ajouté à la programmation dimanche dernier, qui racontait ça, qu'il avait rencontré Jean-Pierre, qu'on y avait dit qu'il reprenait le flambeau de Félix Leclerc. Ce qui n'est pas rien. Puis Félix qui avait repris une chanson de Jean-Pierre en changeant un ou deux mots dans une chanson. Puis il disait, ben voyons, c'est Félix Leclerc, je vais pas commencer à chigner si Félix s'intéresse à mon matériel puis qu'il change un mot ici et là. C'est pas moi qui va le contester, effectivement, tu sais, de passer de Félix à Jean-Pierre. Quand même, là, tu sais, c'est pas rien. C'est pas rien. Boîte à chansons chez Bozo marquera l'époque. Jean-Pierre se souvient particulièrement de ces moments avec Clémence qui s'emploie à corriger ses textes. Elle m'a appris à écrire, disait Jean-Pierre Ferland à propos de Clémence. Début des années 60, comme plusieurs de ses collègues, il prend un billet pour Paris. Il restera 5 ans le temps de faire ses classes, notamment grâce à Feuille de Gui, mais aussi aux Immortels et les Fleurs de Macadam. Il y a aussi Ton visage sur l'album Rendez-vous à la CADA, sorti en 61. Lorsqu'il entend sa chanson interprétée par Félix Leclerc, se sent adoubé. 68, il revient. En fait, il écrit « Je reviens chez nous », qui lui vaudra le prix de l'Académie Charles Cross. L'auteur s'enorgueillit d'ailleurs d'entendre Nana Mouskouri la chanter en plusieurs langues. S'enorgueillit. E-N-O-R-G-U-E-I-2-L-I-I-T. Ce sera le mot de la semaine. La chanson, comme l'auteur, seront intronisées au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2007, de même que Ton visage, le petit roi, T'es mon amour et t'es ma maîtresse, et un peu plus haut, un peu plus loin. Ça fait quand même plusieurs chansons là-dessus. J'en viens chez nous, ramènera aussi Jean-Pierre Ferland au Québec. Le paysage a changé et pas qu'un peu. En cette année 68, voilà, l'hostie de show de Robert Charlebois. J'étais dévasté d'envie. C'est là qu'il fomente sa révolution jaune, début 70. Jean-Pierre Ferland met le paquet, il ne compte pas les heures et passe beaucoup de temps en studio avec son complice, le guitariste Michel Robidoux et des musiciens américains qui ont pour nom Tony Levin, David Spinoza, Jim Young, en plus des arrangeurs Ann Phillips et Buddy Fasino. Il fait venir des instruments de Los Angeles, le réalisateur André Perry orchestre le tout dans son studio au sous-sol de son bungalow à Brossard. Il était le George Martin de l'album. Selon Danick Trottier, professeur de musicologie, en référence aux Beatles qui avaient fait paraître quelques années plus tôt Sgt. Pepper. Jaune devient vite un incontournable et se vend des dizaines de milliers d'exemplaires. Jean-Pierre Ferland, malgré des doutes, assume le virage. Donc, grâce à le show, Jaune est apparu pour Ferland. L'artiste se fait de nouveaux admirateurs, mais il en perd aussi. Ceux-là se sentent trahis. Le chat du café des artistes loge bien loin de l'univers musical de « Je reviens chez nous ». À jaune succédera soleil et toute une décennie de succès comme le show business, une peine d'amour, qu'est-ce que ça peut bien faire? T'es mon amour et ma maîtresse avec Ginette en 74. 75, il sera du une fois cinq en plein air à Québec et à Montréal avec Claude Léveillé, Gilles Vigneault, Robert Charlebois et Yvon Deschamps. L'album recevra l'Académie de le prix de l'Académie Charles Cross l'année suivante. Les années 80, Ferland se consacre à l'animation de Station Soleil à Télé-Québec, Tapis Rouge et l'autobus du show business à Radio-Can. Félix Leclerc lui enverra un petit mot pour lui dire de revenir à l'écriture. Ce qui arrivera en 89, mais ça ne sera pas couronné de succès. Comédie musicale Gala. Il admet en avoir tiré plusieurs leçons qu'il tente de mettre à profit avec La femme du roi, une autre histoire d'amour. Celle qui fait abdiquer le roi Édouard VIII pour l'Américaine Wallis Simpson. Les années 90 sont jalonnées des classiques de Tébel, écoute pas ça et envoie à la maison. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que cet album-là, paru en 94 ou 95, avec Tébel, écoute pas ça et envoie à la maison, on a l'impression que ça fait partie du répertoire de Jean-Pierre Ferland depuis tellement d'années, mais ces chansons-là ont à peine 30 ans. Si on est en 95, ils vont avoir 30 ans. Quand t'es mon amour, t'es ma maîtresse, là, on parle de 50 ans. C'est ça qui est particulier. Jean-Pierre Ferland est fait officier de l'Ordre du Canada en 96 et chevalier de l'Ordre national du Québec en 2003. Il était à la retraite depuis 2005, quoiqu'il multipliait quand même les apparitions télé, notamment coach de La Voix à TVA, mais également de nombreuses apparitions dans d'autres émissions. En direct de l'univers à Radio-Canada, pour ne nommer que celle-là. Céline Dion et Ginette lui rendent hommage sur les plaines. Il l'invite aussi à chanter. 2009, Bijoux de famille, c'était son album de reprise avec différents artistes. Et voilà, il participe aux émissions spéciales de Céline. Il sera à l'Orchestre symphonique en 2015 pour ses 80 ans. Et malgré la pandémie, il lance Partir au vent en 2020 et promet éventuellement un album country. Album country qui ne verra pas le jour. Donc voilà les grandes lignes de la carrière de Jean-Pierre Ferland, assez incontournable. Premier ministre Legault qui avait offert les funérailles nationales, chose qui arrivera. La famille a accepté l'invitation. Il y aura des funérailles nationales. Bon, évidemment, la date sera à déterminer. On va entrer en contact avec sa famille. Si elle le souhaite, on va organiser des funérailles nationales, avait affirmé François Legault, après avoir offert ses condoléances à la conjointe Julianne Samur et à ses enfants, Julie et Bruno, ainsi qu'aux proches de la famille. Ce qui avait donné également droit aux sept ministres de la langue à faire chacun tour à tour leur « Je me souviens d'avoir écouté tel album », Bernard Drainville qui dit qu'il est allé chanter à son mariage. c'était quand même particulier. Ah oui, c'était notre chanteur de noces. Eh bien, donc tout le monde avait son petit souvenir de Jean-Pierre Ferland partagé pour après ça annoncer 600 millions pour essayer de peut-être éventuellement freiner le déclin du français. Peut-être. Si ça marche, on le sait pas. Donc ça, c'était la fin de semaine dernière seulement. On regarde effectivement cette semaine qui n'a pas manqué d'action. C'est le cas de le dire. Vous écoutez le deuxième service ici même sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIS 94.3. De retour au deuxième service. Chose sauvage qu'on vient d'entendre avec Araignée en musique. Précision concernant la semaine dernière, je m'amusais de Geneviève Guilbeault qui fouillait dans sa sacoche, notamment parce qu'on avait l'impression qu'elle voulait se délaisser de ses fonctions du transport. Je disais qu'éventuellement, elle allait vouloir arriver elle aussi avec son tableau de bord comme Santé Québec et sa Top Gun Biron du privé qui a hérité de l'entreprise familiale qui va maintenant gérer 300 000 employés au Québec avec un salaire de 600 000 $ par année, en tout cas les deux premières années, avec son vice-président qui lui va en gagner à peu près 500. Let's go Santé Québec. Maintenant, le ministre de la Santé a plus de job. Ben, je disais aussi à la blague qu'elle allait vouloir également restaurer le ministère de la Voirie. La précision que je voulais faire, le ministère de la Voirie avait officiellement été démantelé en 1973 pour faire place officiellement au ministère des Transports. On parle alors après le ministère de la Voirie. On était avec Fernand Lizotte de l'Union nationale qui était au transport depuis la création du poste. Puis ce sont les libéraux. Georges-Emery Tremblay et Bernard Pinard du Parti libéral qui ont occupé la fonction dans les années début 70. Puis ça s'est enchaîné libéral, PQ, comme on s'en doute. Bien sûr, Bernard Pinard, Denis de Belval, Guy Tardif, Jacques Léonard, Jean Crépeau, Jacques Brassard, Guy Chevrette, Serge Ménard, plein de noms. Julie Boulay, du Parti libéral en 2007. Sam Hamad, Pierre Moreau, Sylvain Gaudreau, Robert Poëty. Dans les plus récents, Jacques Daou, Laurent Lessard, André Fortin. Là, on est rendu dans les années 2016-17. Bonnardel, puis jusqu'à dernièrement, Geneviève Guilbeault. Eh bien, j'ai été ramené à l'ordre cette semaine parce que Geneviève... Ah, bel et bien, dans ses cartons, l'envie de créer une entité indépendante du ministère du Transport pour se délaisser du bout de transport et se concentrer uniquement sur l'asphaltage des routes, la construction de ponts et éventuellement le troisième lien. Je fais des farces pour le troisième lien, on l'espère. Cette semaine... Geneviève Guilbeault déposera le projet de loi pour créer Mobilité Infra Québec. Conseil des ministres qui lui a finalement donné le feu vert alors que le projet devait aboutir l'automne dernier. Geneviève Guilbeault transférera donc les responsabilités du ministère des Transports à cette agence dans le but, dit-elle ou dit-on au ministère, dans son projet, de mieux gérer les grands projets d'infrastructure. Peu importe ce que ça veut dire, son mandat portera sur la planification et la réalisation de projets de transport collectif et de travaux routiers complexes, comme la construction de ponts. Je n'étais pas si loin. Elle sera chargée d'évaluer l'intérêt de procéder ou non à des projets qu'on lui soumettra. Fait que dans un monde où on dit qu'il y a trop de bureaucratie, qu'il y a trop de gens qui doivent répondre à des courriels sur 12 étages de personnes pour qu'un projet finisse par aboutir, ben Geneviève Guilbeault, elle a décidé d'en rajouter un bureau au grand complet. L'agence devra compter une cinquantaine d'employés. Elle ne sera pas soumise à la loi sur la fonction publique, donc cela permet d'offrir des salaires plus élevés aux employés et aux dirigeants, donc être plus attractifs. Donc, on va créer une compagnie à part du gouvernement pour faire des ponts au Québec. Yes, sir! L'encadrement et le financement de Mobilité Infra-Québec ont provoqué des débats importants au sein du gouvernement, d'où pourquoi il y a eu un énorme questionnement depuis l'automne dernier et que Québec Infra n'était pas encore en chantier. Donc, je me suis fait ramener à l'ordre par les notifications des journaux parce que Geneviève avait ce projet-là. Je le disais en joke, mais elle l'avait pour vrai. Pour financer Mobilité Infra Québec, Geneviève Guilbeault a demandé de nouvelles sources de revenus. Différents scénarios ont été proposés pour que son agence touche, par exemple, une partie des dividendes versés par Hydro-Québec. Qu'on asphalte les routes avec l'argent d'Hydro-Québec. Let's go, Geneviève. On part une part des revenus réservés au Fonds des générations. Nos gens retraités n'auront plus d'argent. Il y a eu beaucoup de résistance au gouvernement dans ce sujet, surtout que le contexte où les finances publiques sont dans le rouge. Il a été évoqué que l'agence soit financée essentiellement à même le transport, le budget du ministère des Transports. Ce qui devrait être logique dans n'importe quelle logique, parce que ça reste quand même dépendant d'elle, ou en tout cas, est-ce que ce sera vraiment si indépendant? La question va se poser. Le seul point positif, pour vrai, que je pourrais donner à ces initiatives-là de vouloir créer des business avec l'éducation, la santé, le transport dans ce cas-ci, c'est que ça peut potentiellement devenir apolitique. Donc, qu'il y ait un changement de gouvernement ou non, les projets ne tomberont pas ou il n'y aura pas de « Ah, ben le précédent gouvernement voulait faire ça, donc on va l'enlever, puis nanana. » Pour ça, ça peut valoir la peine. Ne serait-ce qu'en éducation, que du jour au lendemain, le ministre de l'Éducation décide de bannir la construction de toute nouvelle toilette mixte, parce que c'est ça la mode de ce temps-ci, de vouloir être contre un groupe de gens, même si on a mis sur pied un comité de sages québécois qui finalement n'avait pas le mandat de décider de ça, même si ça a été décidé après que ce débat-là ait fait rage l'automne dernier. Ben, que ça soit apolitique, c'est pas complètement mauvais. Mais où ça devient problématique, c'est justement comment qu'on finance ces bureaux de cinquantaine, de soixantaine de gens-là, ou ne serait-ce que la Top Gun et son bras droit qui vont être payés quasiment 1,5 million pour pendant 2 ans pour juste commencer à essayer d'un peu bâtir ce que ça pourrait être de gérer 330 000 employés syndiqués au Québec. Irr! L'autre débat au gouvernement a porté sur l'encadrement de Mobilité Infra-Québec. Sont-ils indépendants ou dépendent-ils du ministère des Transports? Pour réaliser les projets plus rapidement, la ministre a demandé que son agence ait les coups des franges et ne soit pas soumise à différentes règles et directives concernant la gestion des contrats dans les organismes publics. Donc, qu'elle soit indépendante, entre guillemets. Le gouvernement a fait le choix de modifier la loi sur les contrats des organismes publics et les directives au sujet des projets majeurs d'infrastructure. Le ministre des Infrastructures, Jonathan Julien, déposera un projet de loi lui aussi pour obtenir des gains d'efficacité. Il veut que les projets se réalisent jusqu'à 25 % plus vite et coûtent 15 % moins cher. On va prendre un chausson-pomme avec ça. Il a détaillé sa vision devant le Congrès de l'Association de la construction jeudi. Devant l'assaut de la construction du Québec. Julien a d'ailleurs expliqué que l'agence de Geneviève Guilbeault permettra d'accroître la capacité de gestion du gouvernement. Rien de moins. Comme si Geneviève n'était pas capable de gérer ça tout seul, il fallait qu'elle mette 50 personnes en dessous d'elle pour que là, les projets soient bien gérés. Oui, oui, oui. Cette agence pourra effectuer l'analyse d'opportunités, la planification ou la réalisation de tout projet complexe de transport confiné par le gouvernement et réaliser des analyses en transport ou en transport collectif, ainsi que de préparer un cadre de performance et d'imputabilité lié à un projet. Sauf qu'on le sait que si le gouvernement Legault voulait vraiment faire du transport en commun, il aurait commencé un petit peu avant. Pas juste de dire que ça coûte cher, puis que c'est pas rentable, puis que c'est pas intéressant, puis les gens, ils se battent pas des autobus pour ça. Sauf que ça donne également Québec qui met des bâtons dans les roues des villes, ou des bâtons dans le transport en commun des villes, puisque Québec veut charger des frais prohibitifs aux villes qui, elles, voudraient taxer l'immatriculation. Gouvernement Legault a donné, il y a quelques mois, le pouvoir aux municipalités d'imposer une taxe sur l'immatriculation des véhicules pour financer leur transport collectif aux prises avec d'importants déficits, donc rajouter un 5 $ par plaque d'immatriculation par ville, peut-être. Mais il va vouloir son gain là-dessus. Il facturera des frais prohibitifs à celles qui emprunteront son chemin, ce chemin-là. Donc, il est allé dire à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, vous avez le droit de rajouter 5 piastres sur les plaques pour essayer peut-être de rentabiliser l'autobus. C'est correct. Mais vous allez nous donner notre cote là-dessus. C'est pas vrai que vous allez taxer les Québécois sans qu'on ait notre mot à dire là-dessus. Donc, essentiellement, on donne la permission de rajouter du financement dans les villes, mais on rajoute la TVQ là-dessus. Littéralement. Un pourcentage très important des revenus générés par une éventuelle taxe sera versé en frais administratifs. François Legault veut rajouter des frais de service. C'est génial. Ce qui réduit le potentiel réel de cet outil qui doit pouvoir être utilisé partout au Québec. Évidemment, on ne dit pas que c'est 2 % des revenus. C'est quand même pas rien. Les frais de mise en œuvre pour les MRC et les villes voulant mettre en place une taxe sur l'immatriculation en 2025 sont de 202 202 $. Selon de l'Union des municipalités du Québec, une fois que la taxe est en marche, la SAAC veut ensuite prélever des frais annuels de gestion de 2 % des taxes perçues avec un montant plancher de 60 000 $. Fait que je résume. Le gouvernement dit aux villes, rajoutez une taxe sur les immatriculations dans votre ville, ça va vous donner un certain montant. Par contre, comme c'est la SAC qui gère les immatriculations, on va se garder une cote de minimum 60 000 $ et après ça, on va vous faire un chèque que là, vous allez peut-être pouvoir commencer à rembourser la réparation d'autobus qui est due depuis 4 ans. Façon de parler, mais gérer la gestion des transports. Et ça, c'est pour des municipalités que ça en vaut la peine. Parce qu'une petite MRC, genre, mettons, Bromont, genre, mettons, Pont-Rouge, c'est-à-dire, qui eux autres voudraient avoir un service de transport à même le village, la petite ville, le petit village, ben eux auraient quand même, eux aussi, un prix plancher de 60 000 $ parce qu'évidemment, le pourcentage ne serait pas atteint dû au fait que la population automobile, ou plutôt le bassin automobile, n'est pas aussi élevé que dans un grand centre comme la ville de Québec ou la ville de Sherbrooke. C'est d'une absurdité sans nom. Et après ça, si le gouvernement de la CAQ dit qu'ils n'ont jamais autant investi en transport et nanana, oui, mais tout est déficitaire de toute façon. Et en plus, ce n'est pas pour la création de nouveaux transports. C'est pour juste avoir déjà entretenir ce qui est déjà là. C'est d'une absurdité sans nom. Mais après ça, ils se tapent dans le dos en disant « Oui, mais on est le gouvernement qui n'a jamais autant investi en éducation. » Ben non. Ben non. Parce que les autres le faisaient déjà pas assez. Ça, je le dirai jamais assez. Ils ont beau se vanter d'être le gouvernement qui n'a jamais autant investi dans telle affaire, mais c'est peut-être parce qu'il y avait du sous-investissement dans les précédents gouvernements, qui plus est avec les coupes et avec ce que les libéraux ont fait, avec toutes les coupures que les libéraux ont fait. C'est sûr qu'eux autres remettent de l'argent, en remettent pas autant, mais remettent une partie de l'argent et ont l'air de donner plus que les libéraux. Mais on était dans les coupures. On était dans les restrictions budgétaires. Ben non. On est le meilleur gouvernement. Non, 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 non. On se calme. Et on essaye de ne pas mettre de bâton dans le transport en commun, dans les roues du transport en commun. Ça serait déjà un bon début. On s'arrête là-dessus. Courte pause. Au retour, la suite de ce deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIS 94.3.
Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. François Legault encourage la police de Montréal à disperser le campement pro-palestinien à McGill. Manifestation perturbée, Christian Dubé et Geneviève Biron contraints de quitter un événement à Montréal. Christine Labrie remplace Émilise Lessard-Terrien comme co-porte-parole intérimaire de Québec solidaire. Inquiétude dans le milieu ferroviaire, grève à venir pour le Canadien national et le Canadien Pacifique. Scène artistique, Marie-Hélène Thibert, victime d'usurpation d'identité. Et au sport, match crucial ce soir à Toronto entre les Maple Leafs et les Bruins de Boston, les Leafs qui font face à nouveau à l'élimination. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes.
Clou de mon doux Seigneur qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIS. Moment peu glorieux qui ne passera pas à la minute du patrimoine, ça c'est sûr et certain. Pour la première fois depuis au minimum 30 ans, le chef de l'opposition au Parlement à Ottawa a été expulsé des travaux de la journée suite à des commentaires désobligeants de la part d'ici, dans ce cas-ci, de Pierre Poilievre, pour avoir utilisé le terme « wacko » en désignant les projets de loi et le premier ministre de « wacko ». S'en est suivi le débat toute la semaine de comment est-ce qu'on peut traduire « wacko » pour le Canada français. La meilleure, ou en tout cas l'approximation la plus proche qu'on a trouvée, c'était « cinglé ». parce qu'il n'y a pas vraiment de terme francophone pour « wacko ». C'est le fun à dire, « wacko », par exemple. Ce n'était pas la première fois, il faut le dire, que le terme « wacko » avait été utilisé en chambre, mais à la différence de Québec, qui a son petit livre des mots interdits, comme « girouette », comme... Il y avait-tu « mangeur de hot-dog » En tout cas, il y avait une coupe de même. Mais le plus mémorable, c'est « girouette nationale », qui est interdit de dire à l'Assemblée québécoise. Bien, du côté canadien, il n'y a pas ce petit livre de mots à l'index. Parce qu'évidemment, « wacko » n'est pas particulièrement gentil. Mais dans le cas de la censure, entre guillemets, ou du moins de demander à retirer les paroles, faut que le terme soit utilisé de manière péjorative. Donc justement, si « girouette nationale » avait été employé à l'Assemblée du Canada. Bon, la traduction de tout ça a été difficile pour le bien des anglophones, mais il n'y aurait pas nécessairement eu une interdiction catégorique de prononcer les mots « girouette nationale ». Donc, c'est pour ça que « wacko » a quand même été utilisé par Pierre Poilievre cette semaine. Mais avec le ton qu'il l'a employé, c'est un peu normal que le président de la Chambre se soit levé pour dire « wow, wow, wow ». Même on l'entend dire dans l'extrait, non, c'est pas vrai que vous allez commencer ça. Faut savoir également que, bon, Justin Trudeau n'avait pas particulièrement été gentil non plus quelques secondes auparavant en disant de Pierre Poilievre qu'il n'avait pas de colonne. Donc, c'était bonne partie. Mettons, on avait demandé à Justin Trudeau qu'il retire le pas de colonne, il l'avait fait. Dans le cas de Pierre Poilievre, il a utilisé « wacko » à deux reprises. On lui a dit de retirer « wacko » et il a dit « bon, ben dans ce cas-là, ça sera des projets de loi radical et un premier ministre radical. » Non, je ne veux pas que vous changiez le mot. Je veux que vous retiriez les paroles. Bon, ben parfait, ça va être extrémiste d'abord. Il faut noter également que radical et extrémiste sont dans le vocabulaire de Pierre Poilievre depuis plusieurs semaines déjà. Fait qu'il a décidé d'utiliser des termes qu'on est habitué d'entendre sortir de sa bouche plutôt que wacko. Et comme évidemment cette deuxième tentative, ça lui a été refusé, il a dit bon ben parfait, je vais redire wacko de bord. Ce qui a fait en sorte que le président de la Chambre a décidé de demander à M. Poilievre de quitter l'Assemblée nationale. Et évidemment, ça n'a pas fait l'affaire de sa gang, donc ils l'ont à peu près tout suivi. Il ne restait plus de conservateurs en salle. ce qui a fait dire à une salle hilare, Paris-François Blanchet, « Merci, Monsieur le Président, d'avoir utilisé de votre gros bon sens. » Et ça, effectivement, on peut lui donner la palme de la meilleure joke qui a été faite par la suite. Et ce qui était particulier également, c'est que les autres ministres du gouvernement canadien, lorsqu'ils sont sortis après la crisette conservatrice, a dit « C'est drôle, quand on était juste nous trois, et Elizabeth May, fait que les libéraux, NPD et Bloc québécois, on était capable de s'entendre, on était capable de discuter comme du monde, on était capable d'avoir de vrais débats. » Parce que essentiellement, ce que les conservateurs font, c'est qu'ils prennent une situation un peu anodine, disent que c'est de la faute de Justin Trudeau, et quand va-t-il finalement démissionner ou quand va-t-il arrêter d'être un wacko? Fait que, évidemment, lorsque les conservateurs sont dans l'opposition en face, il ne se passe pas grand débat. Et justement, de se faire sortir sur un wacko, c'est à se demander un moment donné, est-ce que Pierre Poilievre veut tant que ça devenir premier ministre? Au sens où, et ça a été répété à de nombreuses fois, c'est bien cute, c'est bien beau que ça parle à sa base. T'sais, on dit toujours, ah, Pierre Poilievre, il veut consolider sa base, il veut que son monde soit content parce que suite à cet événement-là, et les conservateurs et les libéraux ont lancé des campagnes de financement en envoyant des courriels à leurs membres en disant, d'un côté, Pierre Poilievre a été censuré par le président libéral. Donnez-nous de l'argent parce que ça n'a pas de bon sens. Et dans l'autre sens, on avait les libéraux qui disaient, voulez-vous vraiment d'avoir un premier ministre qui va se la jouer à petit mini-Trump puis qui va être désagréable de même? Ben donnez aux libéraux pour qu'on soit capable de contrer la menace Poilievre. Fait que, tu sais, les deux en ont profité. T'sais, essentiellement, ça a été des belles clips pour chacun d'entre eux. À la fin de la semaine, dès le lendemain, déjà là, le ton était beaucoup plus calme parce qu'ils se sont certainement fait dire l'un et l'autre « Calmez-vous, bâtard, ça n'a pas de bon sens. » Ça n'a pas de gros bon sens. Et voilà, donc, moment peu glorieux. Ça, c'est sûr et certain. Moment plus qu'ordinaire de la politique québécoise. Est-ce que c'est une prémisse à la campagne électorale que ça va se crier des noms pendant 40 jours tout le long et que le moins pire l'emporte au final? Ça risque d'être ça. Parce que, comme je le disais, Pierre Poilievre, il a bien beau vouloir consolider sa base, gratouiller les 3-4% de Maxime Bernier pour l'effacer complètement de la carte électorale parce que justement, ils vont tous se dire « Ah ben là, si Poilievre est capable de traiter Trudeau de wacko, ben pourquoi voter pour Bernier qui gagnera pas quand on peut voter pour les conservateurs qui vont gagner? » Ça, c'est une possibilité. Pour éliminer le Parti populaire, il n'y a rien de mieux que ça. Mais après ça, les gens qui sont un peu plus au centre, qui votent une élection conservateur, l'autre élection libérale, tout dépendamment d'où ce qu'on est rendu dans la rotation, les gens un peu plus modérés, eux regardent ça puis ils se disent « Ouais, je veux-tu vraiment mettre tous mes œufs dans le panier de ce gars-là qui va être notre premier ministre pendant, pour l'instant, il est majoritaire, donc pendant 4 ans? » On veut-tu 4 ans de Pierre Poilievre qui s'ostine avec tout le monde puis qui traite tout le monde de non, tu sais? On veut-tu vraiment ce gars-là comme premier ministre du pays? Et après ça, les seuls arguments que ça fait là, c'est que ça donne beaucoup plus d'arguments pour Pierre Poilievre de « Voulez-vous vraiment rester avec ce Canada-là, le Canada de Poilievre? » Fait que tu sais, c'est gagnant d'un peu toutes les bords si on essaye de twister ça le plus possible. Mais blague à part, la question se pose quand même. Est-ce que Pierre Poilievre est réellement premier ministrable avec quand il agit de manière impulsive de même à insulter tout le monde? C'est pas clair. Il a beau avoir baissé le ton le lendemain, mais encore là, ça faisait en sorte qu'il se dénaturait, entre guillemets, mais de toute façon, chasser le naturel, il reviendra au galop. Mais dans le cas de Pierre Poilievre, est-ce qu'on veut ce galop-là? qui se mettent à insulter tous les autres membres du G7, ça n'avait pas leur affaire, un peu comme Donald Trump l'avait fait au lendemain de son passage dans Charlevoix. Tu sais, la question se pose. Oui, le lien est facile et ordinaire de dire c'est comme un mini-Trump. Mais de faire de la politique d'insultage, puis de se crier des noms, puis de faire du brouhaha dans les assemblées, ça ressemble pas mal à ce que font les républicains du côté américain aussi. Tu sais, des Marjorie Taylor Greene qui gueulent à tout bout de champ dans l'Assemblée quand ça fait pas son affaire, ou qui demandent la démission à tout bout de champ du président quand ça fait pas son affaire. Urgh, ça regarde mal. Les parallèles sont là. Est-ce que c'est la même affaire? Est-ce que c'est le Maple, le MAGAPOLE? Est-ce que c'est la version canadienne de MAGA? Peut-être pas à ce point-là. Est-ce que c'est Make Canada Great Again? Peut-être pas à ce point-là. Mais la ligne est mince des fois. En tout cas, ça je dirais. On va s'en aller quelques instants. Au retour, là. La conclusion du deuxième service de cette semaine, vous écoutez le 88.3 CFAQ et chez 94.3. Sorti dernièrement, un nouvel extrait de Corridor avec Mourir Demain, album qui est paru la semaine dernière. Mimi, sauf erreur pour la semaine dernière. Ou en début de semaine, un des deux. On va terminer cette semaine avec... la chicane est encore pognée du côté de Québec solidaire. Donc, en plus de ne pas faire de gains ou pas faire de grosses pertes non plus. Ben là, en ce moment, on est dans les pertes. Donc, la nouvelle co-porte-parole féminine et ministre de Santérien a claqué la porte en début de semaine en citant notamment des conflits d'intérêts avec l'entourage du porte-parole masculin, Gabriel Nadeau-Dubois, qui prendrait beaucoup de place, semble-t-il. C'est la deuxième à le faire. Catherine Dorion avait écrit un livre là-dessus. Fait que... ça regarde pas bien. Ça a fait en sorte également que Gabriel a pris une journée de repos suite à cette sortie-là, justement, pour un peu réévaluer ses choses, réévaluer ses cartes, si on peut dire ça comme ça. Ça fait également en sorte que on a dû trouver une remplaçante temporaire à Émilie Le Santérien en la personne de Christine Labrie, qui assumera la fonction de porte-parole par intérim. Dans ce cas-ci, la députée de Sherbrooke s'était présentée contre Émilie Le Santérien, ce qui fait en sorte que maintenant, en ayant l'intérim, elle ne deviendra pas la prochaine co-porte-parole. S'il y a prochaine co-porte-parole, parce que dans sa réflexion, Gabriel Nadeau-Dubois est sorti en disant que il allait réfléchir. De toute façon, c'était déjà prévu que Gabriel Nadeau était déjà en réflexion pour un éventuel prochain mandat. Ce n'était pas son dernier mandat actuellement, ou le prochain serait le dernier. Mais lui, il voudrait une refonte du Parti solidaire, parce que c'est bien beau d'avoir de belles idées, c'est bien beau d'être un parti d'idéologie, mais ce serait maintenant le temps d'être un parti qui veut gouverner. Là est la question et la partie importante. Donc justement, qu'il y ait quelqu'un qui prenne davantage de décisions, au sens où, comme Gabriel Nadeau-Dubois est un porte-parole, où normalement il est censé seulement dire les intentions de son parti et non pas de prendre des décisions. T'sais, de faire de la politique autrement, c'est bien beau sur papier, mais si Québec solidaire veut un moment donné prendre le pouvoir, faudra arrêter de juste faire du théorique, puis du « oui, mais si » et du « faut faire attention à » puis nanana. Évidemment, est-ce que la base de Québec solidaire va aimer cette nouvelle approche-là? La question est lancée. Il y aura de toute façon de nombreux débats, il y aura des rencontres spéciales très certainement qui vont peut-être faire en sorte que Gabriel Nadeau-Dubois ne sera plus co-porte-parole masculin. Mais après ça, est-ce qu'il va avoir raison aussi d'un autre sens? Est-ce que les gens vont dire « ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, si on veut finalement former le gouvernement, il faut qu'on arrive avec une véritable proposition différente qui va plaire, donc justement... se rapprocher peut-être un petit peu plus du centre, recentrer le message, enlever des trucs qui sont trop à l'extrême gauche, peut-être, pour un certain électorat, pour le ramener un peu plus au centre. Fait que la question est lancée. Y aura-t-il refonte? Est-ce que Gabriel Nadeau va survivre? Est-ce que, ben, quand aura lieu la prochaine campagne, ça devrait pas aller avant la fin de l'année si c'est pas au début de l'année prochaine? Qui se représentera pour faire la prochaine élection? Qu'est-ce que ça prend pour être meilleur, ben pour être un co-porte-parole qui va rester? C'est surtout ça, parce que dans le cas des ministres de santé, rien du fait qu'elle était en Abitibi et qu'elle devait traverser le Québec à tout bout de champ en étant la nouvelle co-porte-parole, évidemment, ça devient compliqué pour elle. Mais après ça, comment est-ce qu'on réussit à faire le tout? Tout est lancé, tout est sur la table. Est-ce que le Québec solidaire va survivre à cette situation-là, où tranquillement, pas vite, on va juste rentrer dans les rangs et retourner au Parti québécois et au Parti libéral? La question est lancée aussi. Donc, serait-ce la fin de Québec solidaire? Sait-on jamais. Ouais, c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Ça va pas bien un peu partout, mais bon, ça va pas bien assez égal aussi dans un certain sens. C'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. À la semaine prochaine. Salut.